expertise. L'important, c'est d'être des experts indépendants. Et on a décidé de se mettre en réseau dans l'accompagnement, justement, de l'entrepreneuriat, de l'économie sociale et solidaire, en réaction à deux choses, c'est-à-dire essentiellement sur la nécessité de modernisation de l'économie sociale et solidaire, d'une part, et d'autre part un peu en réaction avec au grand cabinet type Ernst & Young, Andersen, qui finalement sont les cabinets qui d'habitude sont toujours sollicités et qui apportent leur empreinte, y compris dans des logiques économiques, une certaine forme de modélisation des logiques d'entreprendre dans le monde de l'économie sociale et solidaire, qui lui-même a besoin de se mettre en débat et de définir ses propres logiques complémentaires à d'autres logiques économiques. Et donc, il nous paraissait important de pouvoir se mettre en réseau pour échanger, professionnaliser le champ de l'économie sociale et solidaire, le moderniser, et donc véritablement à tout de transformation sociale, puisque c'est le but de ce champ économique. Alors, notre atelier accompagnement de l'entrepreneuriat, il va se faire sous la forme de témoignages, qui seront des témoignages. Alors, on a, dans un premier temps, vous allez avoir l'expérience du sel. Il va vous expliquer ce que c'est Denis Harbel. Ensuite, la ferme du bonheur de Nanterre, l'expérience des boutiques gestion et l'expérience de Paris Initiative Entreprise. Donc l'objectif qu'on s'est donné, c'est d'avoir quatre témoignages concrets d'entrepreneuriat ou d'accompagnement de l'entrepreneuriat de l'économie sociale et solidaire. Dans un premier temps, deux cas concrets d'entrepreneuriat et donc les témoignages vont nous dire en quoi ils ont pu être accompagnés plus ou moins bien accompagnés dans la réalisation de leurs projets et quelles difficultés ont-ils rencontrées, que ce soit vis-à-vis des banques, éventuellement vis-à-vis des pouvoirs publics, et les aspects positifs des partenariats qu'ils ont pu tisser dans la mise en œuvre de leurs projets. Et ensuite, les boutiques gestion et Paris Initiative va pouvoir dire eux-mêmes, puisque ce sont plutôt des acteurs dans le champ de l'économie sociale qui accompagnent l'entrepreneuriat, donner à partir également de cas concrets quels sont les besoins, les atouts majeurs dans cet accompagnement. Voilà, et ensuite donc on va procéder un témoignage, quelques questions pour simplement si on souhaite faire valider quelque chose qu'on n'aurait pas compris dans la présentation. Mais le débat général, je souhaiterais qu'il puisse se faire sur le champ de l'accompagnement de l'entrepreneuriat après les quatre interventions. Voilà, donc je vais demander aux intervenants, bien sûr, on le sait, la consigne, c'est d'être concis, efficace et court, mais en même temps assez complet. Donc Denis Harbel du SEL va nous faire la première présentation.
Voilà, bonjour. Donc en fait, l'idée, c'est pas vraiment de vous présenter un projet, mais plutôt de vous présenter son déroulement. Hein, c'est pour servir un peu de base ou de support pour initier ensuite un débat. Donc en fait, je ne vais pas vous parler vraiment du projet, mais des grandes étapes de son déroulement, et puis également vous faire un petit topo sur le, disons, l'analyse qu'on fait des difficultés, des raisons pour lesquelles on a pu être confronté à ces difficultés, de façon à ce qu'éventuellement ensuite on puisse discuter des pistes ou des solutions, ce qu'on pourrait faire pour améliorer en fait les problèmes auxquels on a été confronté ou les éviter même. Hein, donc le projet en fait, son nom, ben, c'est Maison du Sel. Rapidement, je vous donne quand même un petit mot sur l'environnement. Donc c'est bien effectivement en rapport avec le sel, hein, les systèmes d'échange local. Donc bon, l'environnement en fait, sel en France, démarrage fin 94, croissance 96-97, on passe à 300 en 99. En gros, il y a à peu près 500 groupes qui sont créés, dans lesquels 80 à 100 000 personnes sont passées. On considère qu'il y a à peu près 200 celles qui ont disparu et beaucoup de projets. Oh, bah, c'est gentil.
C'est pour votre travail
là. Merci beaucoup. Voilà, donc grosso modo, ça c'est l'environnement général. Il y a des tas de projets qui sont restés au stade d'intention, qui n'ont jamais débouché, évidemment. Et puis, donc ça c'est au niveau national. Et puis au niveau de Paris, bon ben ASEL a été créé à Paris en 96. Il y a à peu près 1600 personnes qui y sont passées. Fin 2001, il y avait 600 adhérents à jour de cotisation. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, mais... bon, en gros, ça représente 20 000 échanges réalisés entre ses adhérents, une quarantaine de bénévoles qui s'impliquaient, toujours en 2001, hein, les chiffres, possibilité rémunération monnaie locale. Pendant un moment, on a eu deux personnes en contrat emploi solidarité, c'était des adhérents du SEL en situation difficile, RMI, SDF, etc. Et puis un local fourni par par une adhérente du SEL en fait, hein, qu'on lui payait en monnaie locale et qu'on a dû quitter il y a maintenant près d'un an. Donc pour faire face à ce développement, on a été amené à imaginer un projet parce que ben on s'est rendu compte que un SEL c'est quelque chose d'assez lourd en fait à faire fonctionner, il faut de la rigueur. Pardon. Oui. Ah, système d'échange local. Ce sont des personnes qui se regroupent pour échanger entre elles des biens, des objets, des services en utilisant une monnaie interne au groupe. Voilà. Donc en général, c'est sous forme associative. On crée une monnaie, les gens adhèrent, on leur ouvre un compte comme un compte en banque, et en fait, chaque personne donne ce qu'elle recherche, ce qu'elle propose. On fait un gros catalogue qui est publié régulièrement dans la mesure du possible, et après ça les gens prennent contact les uns avec les autres et puis bon ben négocient leurs échanges qui se font donc en utilisant cette monnaie locale. Voilà en deux mots ce que c'est. Donc en fait, voilà, on a été, pour faire face un peu à tous les problèmes posés par le développement du SEL de Paris, on a été amené donc à démarrer ce projet de maison du SEL. Alors, le démarrage, ben, c'est octobre 2000, lorsque le feu secrétariat d'État à l'économie solidaire a lancé son premier appel dynamique solidaire. Donc à l'époque, on n'est pas du tout des professionnels de l'associatif, hein, bénévoles, connaissant rien à tout cet univers-là. Donc on s'est positionné avec une étude de faisabilité. De la part du secrétariat d'État, ben, on a eu un soutien moral, pas de financement, mais en tout cas un soutien moral, ce qui nous a permis quand même de nous présenter, d'ouvrir un peu des portes. C'était pas mal, c'était sympa. La Fondation France Liberté, elle, nous a filé un petit coup de main financier. Faut dire que bon, c'est un peu historique, quoi. La Fondation France Liberté, Daniel Mitran, aide les SEL depuis qu'ils existent. Et puis on s'est appuyé sur une structure qui s'appelle l'AM, Association pour des échanges monétaires équitables ou pour des monnaies équitables, qui était un peu le maître d'ouvrage. Donc octobre 2000, on se positionne sur une étude de faisabilité, ça c'est la première étape. En décembre 2001, donc là, deuxième appel dynamique solidaire 2001, on a eu un petit peu de sous via la région. Et puis la Massif également s'est intéressée à ce qu'on faisait. Et puis en fait en mai 2002, ça c'est fin de l'étape étude de faisabilité, on va dire, la mairie de Paris, on a organisé une réunion chez eux avec l'ensemble des gens qui nous avaient dit que le projet les intéressait. Et là la mairie de Paris nous a fait un courrier nous disant que ils considéraient que notre projet valait le coup d'être aidé, et donc ils se sont engagés à nous fournir un peu le local dont on avait besoin, sous réserve évidemment, parce que c'est un projet lourd, qu'on puisse trouver d'autres partenaires, la mairie de Paris n'ayant pas les moyens de le supporter elle toute seule. Donc je vais quand même vous dire deux petits mots. Un objectif de ce projet, c'est l'autofinancement. Donc ça c'est un point important, on cherche à s'autofinancer au bout de 3 ans. On a besoin d'un espace qui fasse au minimum 400 à 500 mètres carrés, Et puis, bon, bah, là-dessus, on a grosso modo un budget de fonctionnement qui va de 260 000 euros par an la première année à 300 000 en troisième année, quoi. Hein, ça, c'est juste pour vous donner quand même une idée de l'importance du projet. Donc, mai 2002, pour nous, ce courrier de la mairie de Paris, il a clôturé la partie étude de faisabilité, puis à partir de là, on est vraiment passé en réalisation. Et donc, la première étape, ça a été évidemment de créer l'association Maison du Sel, déclaration en préfecture, etc. Et puis, de se lancer gaiement dans les procédures de demande de subvention. Et c'est là où on a mis le doigt dans un engrenage douloureux. Donc on s'est tourné vers des fondations pour tout ce qui était des besoins investissement et vers des institutions, pouvoirs publics, pour tout ce qui était du fonctionnement, sachant que il n'y a que du côté des pouvoirs publics, en gros, qui fonctionnent sur des conventions pluriannuelles. Les conventions font du projet au cas par cas, ponctuel, mais les fondations, ou même d'autres, les organismes semi-publics, caisse d'allocation familiale, caisse d'épargne, etc., font peu de conventions pluriannuelles. On a été orienté en fait vers la politique de la ville. Alors pour nous, on savait pas encore où serait le local. On a pris contact avec les gens de la politique de la ville qui nous ont expliqué qu'ils avaient mis en place une procédure de guichet unique par rapport à plein d'interlocuteurs. Bon, donc en fait, on a injecté nous notre demande de subvention par ce canal-là. Et puis on a également envoyé les appels à partenariat vers les fondations. Donc du côté des fondations, en fait, certaines d'entre elles sont relativement réactives. Hein. Dans les trois mois, on a commencé à voir arriver des réponses positives, même les premiers chèques à déposer sur le compte. Par contre, du côté politique de la ville, on s'est aperçu qu'on était dans une impasse, parce que petit à petit, on a découvert que le dossier n'était pas transmis ni à la région ni ailleurs, et puis on a découvert ensuite que simplement on rentrait pas du tout dans leurs critères. A priori, nous on est dans le champ insertion par l'économique, lutte contre l'exclusion, solidarité, du côté des associations, on peut aussi y aller faire un tour. Enfin, il y a plein de domaines ou de directions dont on cadre par rapport à leurs critères ou à leur champ d'action. Et donc du côté politique de la ville, on est obligé en fait de recommencer toute la procédure en utilisant notre point d'entrée. Voilà. Et donc aujourd'hui, du côté de la mairie de Paris, on a une proposition de local. Du côté des fondations, donc, on a en fait quasiment stoppé le processus parce que c'était pas la peine qu'on continuait à avoir des réponses positives sur de l'investissement tant qu'on n'avait toujours pas bouclé le montage au niveau fonctionnement. Et donc on repart sur un tour de piste du côté région, État, etc., etc. Voilà. Alors, la petite analyse qu'on en fait, voilà un peu les éléments. Hein. Alors, on a mis les verrous. Bon, verrous, c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas, ce qui est un peu à l'origine des difficultés qu'on a pu rencontrer. Alors, le premier point, c'est que on a une image extrêmement floue. Le sel, c'est une espèce d'ovni, on ne sait pas bien. On trouve des interlocuteurs qui nous demandent si ce qu'on fait est légal. Bon, ça dénote bien quand même qu'est-ce que c'est que ce truc, par quel bout on va le prendre. Ça a un aspect innovant. Alors, dans quoi est-ce qu'on l'a fait rentrer? Chaque structure a ses critères, ses grilles, son champ d'intervention, etc. Est-ce que c'est de la solidarité? Est-ce que c'est de la lutte contre l'exclusion? Quel type d'exclusion? Parce qu'il y en a des tas. Est-ce qu'il y a une notion d'insertion là-dedans? Est-ce que ça touche à l'éducation populaire, au service de proximité, à l'action culturelle, etc.? Et bizarrement, nous, ce qu'on fait, en mettant en place ces systèmes d'échange, on touche en fait à tous ces champs-là, mais sans pouvoir rentrer clairement dans aucun d'entre eux. Bon, c'est comme ça. Alors, mixité sociale, on peut pas nous identifier par notre population. On n'est pas vraiment du social pur et dur. On ne fait pas, je sais pas quoi, moi, de l'alcoolique à 100%, ou de l'handicapé moteur, ou toutes les populations comme ça. Autre aspect, on a fait le choix clair d'être sous statut associatif. Et là déjà, on voit tout un tas de portes qui se ferment. Il y a tout un tas de structures qui existent au niveau insertion par l'économique. Bon, je ne vais pas les citer, enfin Adi, etc., etc. Vous êtes associatif, ben non, vous n'êtes pas chez nous. Bon, dommage. Et puis également, ben vous êtes associatif, oh ben c'est pas très sérieux, alors vous pouvez bricoler. Bon, nous on considère que quand on monte un projet comme ça, avec les budgets, les ressources humaines, parce qu'il y a quand même des emplois, on a 4 emplois derrière, on a ben tout ça, ça doit être fait avec autant de rigueur que pour n'importe quelle autre entreprise, quel que soit son statut. Et puis. Alors, autre, multiplicité d'organismes et d'interlocuteurs. Donc, les directions mairies, quelle est la bonne porte, par où on peut rentrer, entre région, État, fondation, organisme semi-public, chacun a ses critères, ses procédures, ses délais. Les formulaires et tout ça au fil du temps, ça change parce que c'est aussi des organismes vivants tous ces trucs là, donc ils se restructurent, les gens bougent, et leurs priorités peuvent évoluer. Donc, difficulté à identifier le bon interlocuteur. Toujours, ça c'est un, de la bonne volonté. Alors ça, énorme la bonne volonté. Mais bon. Et puis stabilité, suivi opaque. Ouais, ça c'est aussi une fois qu'on envoie un dossier, on a parfois du mal à savoir dans quelle pile il est, quoi. Logique de la poule et de l'œuf. Alors ouais, je m'engage à condition de savoir ce que les autres vont faire. Mais si tout le monde tient le même discours, on va pas avancer très vite, quoi. Et ça c'est quelque chose sur quoi on tombe de façon assez constante. Alors autre aspect, on a démarré ça quand même en octobre 2000, on est maintenant en juin 2003, tout ça c'est fait de façon quasi bénévole, quoi, pour un job qui est presque à plein temps. Ça c'est de notre part une faiblesse, quoi, professionnalisme, on se forme. Et puis, la lourdeur du projet aussi, il y a des gens à qui ça fait peur, quoi. Je suis arrivé au bout de mes transparents et donc je vais laisser. Il y avait un autre projet, la ferme du bonheur, je crois. Hein? Bon. Pardon? Oh, je vois pas le rapport avec le sujet, mais non, je parle pas du sel de Paris, je parle de la maison du sel.
Vous avez un problème, monsieur? Et non, parce qu'il parle de la mise en place de la maison du sel de Paris, dont il est porteur. D'accord. D'accord. Bon. Nous avons parlé de la mise en place de la maison du sel. Est-ce que tout le monde a bien compris que nous parlons de la maison du sel? Est-ce qu'on rétablit les choses? Il y a un monsieur qui demande quelle est la différence
entre la maison du sel
et un sel. En deux secondes, parce qu'on peut pas, si vous voulez, comme on a plusieurs projets, je vois bien qu'il y a un débat interne qui n'est pas inintéressant. Tous les débats sont intéressants, mais on peut pas mener celui-ci ce matin.
Voilà. Donc je voulais bien me focaliser sur le déroulement du projet et pas insister sur sa description qui me paraît pas forcément indispensable. C'est pas forcément le lieu et le moment. La maison du sel a un double objet. Un, c'est un sel, comme n'importe quel autre, avec fonctionnement en monnaie locale, échange, etc. Et deux, c'est aussi la gestion d'un espace. Cet espace va avoir plusieurs fonctions, il va faire de l'hébergement associatif, un espace de convivialité, il y a également des activités permanentes et des activités temporaires qui doivent s'y développer, etc., etc. Donc il a un double objet, gestion d'un lieu de vie, hein, et sel en tant que système d'échange local.
Voilà. Bon, ben, alors, merci.
Je précise également que j'ai été trésorier administrateur du sel de Paris de 1998 à 2002.
Ben, vous pouvez répondre à cette question et puis ensuite...
Pour le moment, et tant que nous n'avons pas une garantie absolue que ce projet verra le jour, c'est-à-dire toutes les réponses, notamment au financement lié au fonctionnement, nous ne prenons pas d'adhérents. Ceci étant, voilà, c'est tout.
Voilà. Bonne question, réponse intéressante. Je vous propose, si vous souhaitez en débattre, après, vous pouvez, rien ne vous empêche de déjeuner autour d'une table, tous ceux que ça intéresse, cette affaire, qui peut être tout à fait passionnante, à mettre en discussion. Je vous propose de le faire. Il ne s'agit pas pour moi de censurer le débat, au contraire, il m'intéresserait assez finalement, mais ce n'est pas l'objet de notre rencontre. Alors, je vous propose à la ferme du bonheur, là, on va passer au bonheur, c'est pas mal. Donc toujours, on ne sait pas comment va arriver le monsieur de la ferme du bonheur, s'il va arriver avec des bottes, il arrive en short. C'est comme ça, c'est la surprise du jour. À toi, Roger.
Je sais pas comment ça marche, si ça marche. Je suis un peu empoté parce que, à contrario de ce que le monsieur des régies de quartier a dit, faut qu'on arrête de parler et il faut faire. Moi, c'est un peu l'inverse. J'ai fait, et aujourd'hui, on me demande de parler, donc je m'excuse, je vais être très, très confus, certainement. Je suis tombé d'accord, alors ça aussi, je suis un roi de la digression. Je vous demanderai d'ailleurs à 9 minutes 30, puisque c'est le délai imparti, de m'arrêter parce que je voudrais citer un petit bout de texte d'un auteur fétiche et fondateur de notre action, Jean Genet. J'ai accepté depuis peu de parler parce que je m'aperçois que, outre d'amener de l'eau à notre moulin, ça permet de donner du courage à autrui et puis, ma foi, de faire école. Donc, la ferme du bonheur, je vais vous parler déjà de nos voisins. Il y a deux dépôts, on est à Nanterre. On a deux dépôts pétroliers classés Céveso, bientôt un autre site Céveso, une usine de chauffage. On a la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, on a deux chantiers d'autoroute, la 14 et la 86. On a deux routes nationales, on a la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, on a cinq cités HLM, on a la ligne Paris-Le Havre, le couloir aérien pour Roissy et l'héliport de Saint-Cloud et en dessous, donc, fromage de chèvre et poésie en banlieue rouge. Je vais citer, essayer de m'en rappeler, un petit poème de Whitman pour expliquer un peu comment on fonctionne. C'est moi que je célèbre, moi que je chante, et ce dont je réponds, tu en répondras, puisque chaque atome qui m'appartient aussi bien t'appartient. Je flâne et invite mon âme, je me penche et flâne à ma guise à observer pointer l'herbe d'été. Ma langue, chaque atome de mon sang fait de ce sol, cette terre, né ici de parents, né ici de même, et leurs parents de même, 37 ans ce jour, en parfaite santé, je commence, espérant ne pas cesser jusqu'à mort. Credos et écoles suspendus un temps, pris du recul le temps qu'il faut sur ce qu'ils sont, mais jamais oublié, j'abrite le pire et le meilleur, je laisse parler au pur hasard la nature sans entrave avec l'énergie des origines. C'est un peu comme ça que je fais un nouveau sous-titre à la ferme du bonheur, réponse naturelle au milieu que je viens de vous citer. Alors, comme je ne sais pas parler, en formation, j'ai simplement raté un bac de lettres à 23 ans, j'ai essayé de faire un plan, alors j'ai plusieurs idées pour notre fonctionnement. Donc, mon propos, je pense que vous l'avez compris, c'est le spectacle, que j'appelle la seule chance, ma seule chance de réconciliation avec la société. On ne fonctionne pas avec un programme. Les spectacles, c'est pareil. Ils adviennent à la ferme du bonheur quand ils doivent advenir. Par exemple, j'ai construit un théâtre sans permis de construire. ce que j'appelle le favela théâtre, parce que c'est de la récup, hein, c'est aussi l'essentiel de notre fonctionnement. Mais comme je dis, dans le désordre où on bosse, la question s'est pas posée un instant de permis, mais d'un devoir poétique. Et donc, l'intronisation, ça a été une nouvelle de Dostoïevski qui s'appelle « Le rêve d'un homme ridicule », qui parle de la possibilité, sinon du devoir, du bonheur, ici et maintenant. Après, j'étais, parce que je me suis occupé d'un jeune, quasiment adulte, mais pas encore, qui est en situation de prostitution depuis l'âge de 15 ans, le résultat de l'institution, enfin la réponse de l'institution à ma proposition, c'est de me coller une enquête. J'étais suspecté de corruption de mineurs pendant 6 mois. Je m'en suis sorti assez brillamment, et ça m'a permis de mettre en scène cet auteur qui est pour nous, à la ferme, parce que je suis plus seul, fondateur, un texte sur la délinquance juvénile qui s'appelle « L'enfant criminel » de Jean Genet, qui nous vaut aujourd'hui d'être taxé de spécialiste. Voilà, je pense que parce qu'on a été à la hauteur du sujet, qu'on n'a pas, pris de pincettes. On a mis d'ailleurs dans le rôle des flics deux jeunes de cité qui ont été mais merveilleux, hein, merveilleux de justesse et de délicatesse, je dirais. On ne travaille pas non plus avec des comédiens professionnels. Je travaille avec mes voisins, éventuellement ma famille quand elle passe par là, les jeunes qui me vendent les fruits et légumes de la table d'hôte, éventuellement des profs de l'université voisine. Ah oui, j'avais oublié, pas par hasard, de citer dans la liste de notre environnement un peu crado, l'université Paris 10 Nanterre. C'est un très beau symbole, c'est quand même là que de là qu'est parti mai 68, et je la cite pas dans cette liste de voisins, parce que, à mon sens, c'est un allié. Ils nous ont nié depuis qu'on est là, parce qu'a priori, ils briguaient le terrain sur lequel on s'est installé, qui était un terrain issu de la démolition d'une vieille école primaire, et ils briguaient le terrain, donc, et en fait, on est dans le cadre d'un énorme projet, il va dépenser des milliards, qui s'appelle le Grand Axe de la Défense. Il y a 124 hectares sur qui représente la couverture de la 14 sur un périmètre de 320 hectares. Et non seulement ils vont pas récupérer le terrain, la fac, mais on va leur en piquer. Donc ils essayent d'intenter une alliance avec nous. Voilà. Alors je peux parler des animaux. Moi j'affirme, j'ai toujours vécu en ville, mais la nécessité des animaux, comme des végétaux, on le verra tout à l'heure, comme faisant partie de notre univers mental, culturel, sinon biologique. Et j'ai récupéré aussi des animaux, comme j'ai récupéré tout le reste, tout un tas de trucs. On est vraiment sur un fonctionnement hyper récup. Et on a gagné avec les animaux aussi. On va avoir un visa d'exploitant agricole, parce que on a obtenu l'usufruit du campus de la fac. Il y a quand même pas loin de 15 hectares de gazon sans produits toxiques, et puis les chèvres d'elles-mêmes évitent les seringues, les capotes, les poubelles, on fait des autocontrôles, le fromage est super parfait. Là on a fait du miel aussi, ça marche, et on est arrivé à une vingtaine de fromages de chèvres par jour, du fromage de chèvres de banlieue rouge. Vous en avez rêvé, nous l'avons fait. Et on va avoir un visa d'exploitant agricole de ce nombre-là. On a dépassé la production familiale, donc on est en droit de demander. Mais pour ça, il faut une fromagerie aux normes, et la norme est moins. C'est pas super. Mais bon, pour le symbole, et puis à mon avis, l'atout politique en termes de stratégie immobilière, on va le faire, quoi. Parce que virer un paysan de sa terre en France, ça va être difficile. Putain. Ensuite, les végétaux, c'est pareil. J'ai récupéré des choses. J'ai aussi, quand on est arrivé, vraiment, c'était un remblai. C'est-à-dire, il y avait la cour d'école, une dalle de béton avec les rangées de tilleuls et le trou au milieu d'évacuation des eaux de pluie. Au milieu, entre ces rangées de tilleuls, il y a maintenant ce favela théâtre qui est fait en poteau télégraphique et en tôle de chantier et en bâche transparente. Donc il y avait quelques bouts d'herbe, etc. Dès les premières minutes où je suis arrivé sur ce terrain, j'ai planté des trucs, j'ai voulu faire un potager, et c'est assez émouvant de travailler avec le végétal, parce qu'on a beau s'acharner à faire des choses qu'on a décidées, clairement. Alors chez nous, bon, on a une roseraie, on est en train de faire une bambouseraie, on est en train de commencer une collection de saules, on a un jardin blanc, un jardin de couleur, un jardin noir, un verger. Et c'est assez génial, parce qu'on peut s'acharner comme on peut sur un bout de jardin. Il y a quelque chose qui va arriver, qui est une plante rudérale qui arrive du Japon depuis le 17e ou le 18e, et qui va être 600 fois mieux que ce que tu t'acharnes à planter, à faire pousser désespérément. Enfin, c'est vraiment vraiment émouvant, quoi. On crée pas un jardin, on travaille avec. Et on se le rend bien. Voilà pour les végétaux. Alors l'équipe, on a 4 salariés qui sont des emplois jeunes. on a des cas sociaux, là c'est pareil, on n'est pas du tout institutionnel, mais la porte est ouverte. De toute façon, à chaque fois que j'ai une clé, je m'empresse de la perdre dans les deux jours. Et puis ça va très bien avec. Bon, la porte est ouverte. On a pas mal de galériens. Nanterre, c'est quand même une ville assez dure, passionnante pour autant, mais avec la fameuse maison de Nanterre, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est devenu, ça s'est doté d'un plateau d'hôpital depuis 15 ans, mais c'était une structure qui a été créée par la ville de Paris pour se débarrasser de ses indigents au milieu du 19e, ça existe encore, c'est le cache, le chapsa, enfin tous les clochards qu'on pique dans la rue à droite à gauche sont amenés là. Et en face, il y a des cités HLM avec tout le cortège de désastres sociaux. Enfin, une population qui, à 95%, n'a pas le droit de vote, par exemple, juste en face. Voilà, donc, on fait du social. Quand quelqu'un vient sonner à la porte ou rentre dans le jardin, on va pas lui dire, tu vas demain de 9h à midi, de 2h à 6h, voilà, à 6h, de voir l'assistante sociale. On voit ce qu'on peut faire ici et maintenant avec eux. Voilà. Donc des cas sociaux, des bénévoles aussi, comme beaucoup de structures culturelles, on a un statut associatif histoire de rentrer dans une case, pouvoir faire ce qu'on fait comme un peu comme on peut, quoi, toucher des subventions ou pas d'ailleurs, enfin agir, quoi, c'est très souple une association, hein. Mais la façon dont on travaille avec le public fait que très très vite c'est forcément, même la réflexion qu'on mène sur la mise en scène du public dans nos spectacles fait que forcément, il est acteur. On a, par exemple, on a vu ça avec Jeunet, qui traitait d'incarcération. Enfin, je sais pas si vous connaissez Jean Jeunet, c'était un sacré rebelle et de première. À mon sens, politiquement et moralement, personne ne le dépasse, personne ne l'atteint même. Donc, il s'est toujours refusé à la société. Qui que ce fut qui fut en face de lui, c'était je suis là, vous êtes ailleurs. Et donc on mettait le public en cage, une cage pour les hommes, une cage pour les femmes, et c'était assez assez beau de voir comme finalement réduire le public à son extrême statut de consommateur et de non-acteur finalement le rendait acteur. Enfin, c'est assez émouvant pour nous, enfin c'est drôle pour nous sur scène de voir l'autre spectacle, celui des spectateurs en cage. Et donc la façon dont le public vient à nos activités fait que il y a une vraie association qui s'est constituée, qui nous rattrape. On a eu notre première assemblée générale il y a 15 jours avec deux élus de la ville, une de l'opposition et une de la majorité. On a défini un conseil d'administration, je crois que c'est comme ça que ça marche, hein. Avec 11 personnes dont 6 de l'association ATTAC, nationale et Nanterre. Et puis on va élire le président, le trésorier et le secrétaire dans 15 jours. Alors en termes d'urbanisme aussi, on est rejoint par pas mal de gens, notamment Patrick Bouchain, un type qui a finalement déchiré son diplôme d'architecte parce que c'est à son sens comme c'est le seul et dernier diplôme donné par le gouvernement. Et c'est une mesure qui date de Pétain, de 42, donc il l'a déchiré. Et son boulot finalement, il continue à faire de l'architecture, mais il cherche. En étant conseiller de ministre, hein, il a été derrière l'angle pendant 12 ans et maintenant il se retrouve conseiller d'Ayagon, a pointé tous les dysfonctionnements institutionnels et il a croisé la ferme et je le cite quand il a amené le commissaire de l'exposition Buren dont il a fait la scénographie à Beaubourg et des étudiants d'archi aux Beaux-Arts. Il a dit, j'ai choisi de vous amener là parce que c'est l'endroit qui représente toutes les théories que j'échafaude en matière d'urbanisme, d'art, de société, d'architecture. C'est vrai que le Favela Théâtre, moi j'ai pas de formation, ni d'architecte, ni de maçon, ni de charpentier. C'est juste mon instinct, mon intuition et ma quête effrénée de bonheur. Et donc c'est une nouvelle école d'architecture qui s'appelle l'architecture pifométrique et qui a tenu la tempête. On s'aperçoit aussi que de plus en plus de gens viennent dans cette ferme. Au début, quand il y avait déjà les premières roses, la première année qu'on est arrivé, j'avais un bouc, j'avais pas fait gaffe, donc il a engrossé les chèvres, donc j'ai eu des naissances, je me suis retrouvé sage-femme de fait. Et au début, les gens disaient, mais c'est génial ce que vous faites dans la ville. 4 ans après, les gens disent, c'est génial ce que vous faites. La ville a disparu. C'est-à-dire qu'on est vraiment arrivé à faire une parenthèse dans l'espace et le temps de poésie et de partage. Donc ça pourrait... C'est en ça... Voilà, ça va être chaud, là, j'en suis pas au quart. Bon, je vais essayer de réduire. Que ça peut être une réponse à l'urbanisme. Moi, je prétends que dans la ville, on s'est acharné, enfin, c'est un peu toute l'industrie humaine qui s'acharne à évacuer le vivant. C'est sale, ça pue, etc. Mais pourtant, c'est là. Il suffit de voir sur les friches industrielles, par exemple, dès que l'homme s'en va, au moment où il s'en va, c'est parti. La nature reprend ses droits. Voilà. Alors, ou allez, je vais réduire. Parce que je viens aussi de comprendre, pas plus tard que 10 minutes, un quart d'heure, pourquoi j'étais là, accompagnement d'entreprise solidaire. Je dis, mais qui c'est que j'accompagne? Et en fait, et moi, ça, savoir comment on m'accompagne. Écoutez, on est la ferme du bonheur est interdite au public par notre municipalité communiste plurielle depuis 6 ans, assortie d'un refus de dialogue particulièrement brutal. Qui nous empêche de toucher aujourd'hui 450 000 balles. 150 000 balles votées il y a 6 ans, 15 jours après l'interdiction au public par le ministère de la Culture pour la mise aux normes de sécurité. 150 000 balles pour l'aide à la reconstruction après la tempête. Et 150 000 francs depuis 3 mois par la Caisse des dépôts et consignations. Mais là, je suis un peu content parce que ça va être super officiel au terme d'un an et demi de lobbying où j'ai appris. Je suis allé vraiment à tous les raouts municipaux. J'étais d'ailleurs au conseil municipal le soir de la tuerie. Il a été question de nous, justement. Mais je pouvais aussi aller au conseil de quartier, aux commissions extra-municipales de ci, de ça, ou la remise des médailles de la fanfare cycliste de Veufretienne. Tout et n'importe quoi. Je me suis vraiment passionné pour les arcanes de la gestion d'une ville qui est quand même... vraiment, j'en ai déjà parlé de... tout à l'heure, c'est vraiment Nanterre, je crois, un symbole de toutes les contradictions les plus hurlantes, les plus violentes de l'urbanisme. Par exemple, c'est une ville préfecture, communiste plurielle depuis des lustres, ce qui explique un peu justement ce côté finissant, fin de règne, mais préfecture du département Hauts-de-Seine, qui est dirigée quand même par Pasqua. Donc, encore un intérêt passionnant. Donc, au dernier, ce lobby tranquille, avec quelques réserves, comme on dit que ça se doit, s'est transformé en colère depuis un mois. Et au dernier conseil municipal, il y a eu une heure de débat sur notre cas et l'unanimité de l'opposition de droite à la majorité de la majorité, c'est-à-dire les communistes, avec cette petite phrase politique qui disait « Mais non seulement faut pas empêcher, mais faut susciter, c'est déjanter ». Je le vois bien, qui nous sont les derniers à nous empêcher de tourner en rond et de nous endormir. Alors pour en revenir à comment ça s'appelle le thème ? Accompagne. Qui nous accompagne ?
Qui vous accompagne ?
J'ai un peu du mal. Comme je dis, les subventions, je les demande pas, je vais les chercher. C'est toujours très très violent. Et ça, parce qu'on rentre pas vraiment dans les cases. Par exemple, on s'est grillé avec le Conseil régional d'Île-de-France via l'association parallèle pour l'aide à la création, qui prétend que ne pas vouloir nous donner de l'argent pour construire nos jardins et donner nos animaux. Et ils veulent pas entendre qu'un cheval sans école, sans rien, qui va se déplacer comme on arrive à le faire au milieu de 200 personnes sans tuer 15 personnes. Ça, c'est pas en appuyant sur un bouton. Enfin, c'est vraiment des fonctionnements. Toujours l'éternel problème entre les institutions et la réalité des choses. Il faudrait que ces institutions passent une semaine au moins à la ferme du bonheur, mais ils auraient des ampoules aux mains. Donc, quoi d'autre? On a un mécène aussi, un vrai mécène, parce que les pratiques tarifaires sont très claires. De toute façon, personne ne veut faire la caisse. C'est un peu comme l'histoire des clés qu'on paume tous les deux jours. Personne ne veut faire la caisse. Et on a trouvé le système. De toute façon, à une époque, quand on donnait des prix éventuels, évalués de nos spectacles, j'étais tellement gêné que je m'étais tout de suite « Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez payer autrement. » Alors, en nature, travaux... amour, etc. Et ou en objet. Alors je disais bibelot, bouquin, plante, et c'est comme ça qu'on a rencontré d'ailleurs toute la famille de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles avec Gilles Clément, ce dernier théoricien des espaces verts. Et donc désormais le prix d'entrée est à discrétion. Les gens donnent ce qu'ils veulent. et c'est vachement bien. C'est très aléatoire, hein, du jour à l'autre, on n'a rien et puis énormément. Ça permet aux pauvres et aux mesquins, faut le dire, d'avoir un accès à la culture. Ce dont se réclament tous nos grands directeurs de centres dramatiques nationaux et scènes nationales qui, nonobstant des dizaines de millions de subventions, font quand même, pratiquent quand même des tarifs absolument dissuasifs, a fortiori pour les populations dont on parle aujourd'hui. Pardon ? Alors le mécène, alors ça c'est assez spécial, c'est le type, d'ailleurs, qui est venu voir, c'est des pires engences, c'est le PDG de... comment on appelle ça, du bureau international d'un labo de pharmacie, qui est venu voir ce que j'ai fait de l'engagement de militant de Jean Genet. Et vous verrez l'extrait un peu, c'est quand même plus à gauche que la gauche, et c'était la seule personne qui est venue 2 heures après la tempête nous aider, et 6 mois après on s'est aperçu qu'il votait Maigret. Et comme un de mes soucis premiers a toujours été d'être responsable de ce que je suscitais, j'ai beaucoup communiqué là-dessus et j'ai eu tellement de réponses, je vais dire le mot gauche caviar, que j'ai décidé d'assumer ce type-là. De toute façon, il est brillantissime, il est plein de poésie, il a une grosse culture et il a plein de fric. Donc, je lui ai dit qu'une guerre allait être déclarée entre lui et moi. Et comme il avait beaucoup à arguer de son appartenance, pas à la chrétienté, mais au catholicisme, parce qu'il aime les structures, quand il m'a annoncé ça, j'ai eu un vertige, il m'a laissé dans le flou un moment, et puis je me suis retourné vers lui et je lui ai dit « J'ai grand pitié de toi, je te convertirai ». Donc voilà. Alors je vais vous dire ce dernier texte, après j'ai trop parlé, je suis tout mouillé, parce que j'aime pas bien faire ça, je sais pas trop faire. Voilà. La poésie ou l'art d'utiliser les restes. Utiliser la merde et vous la faire bouffer. Aujourd'hui, je ne la définirai plus de cette façon. Si on veut comprendre quelque chose, pas grand-chose, au monde, il faut se débarrasser du ressentiment. Le ressentiment, j'en ai encore un peu à l'égard de la société, mais de moins en moins, et j'espère que dans quelques temps, je n'en aurai plus du tout. Au fond, je m'en fous. Mais quand j'écrivais cela, j'étais sous le coup du ressentiment. Et la poésie consistait à transformer des matières réputées viles en matières acceptées comme nobles, et cela à l'aide du langage. Aujourd'hui, le problème est tout différent. Vous ne m'intéressez plus comme ennemi. Il y a quelques années, j'étais contre vous. Maintenant, je ne suis ni pour vous, ni contre vous. Je suis en même temps que vous. Et mon problème n'est plus de m'opposer à vous, mais de faire quelque chose où nous soyons pris ensemble, vous comme moi.
Je propose qu'on lui pose pas de questions, sinon on s'en sort pas. En tout cas, c'était merci. Pour moi, le bonheur est tout de suite et maintenant. C'était merveilleux. C'est vraiment, rien que pour vous rencontrer, je suis contente d'être venue. Je parle à mon nom, bien sûr. Alors, pardon ? Oui. 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 Oui.
Comment ils entendent, quel rapport avec des projets aussi différents que le premier et le deuxième?
Oui, nous avions convenu au départ que, c'est-à-dire que si, le contenu du temps qu'on est imparti, je crois que c'est important. On est tous des adultes, on a l'habitude, on est des entrepreneurs, je crois qu'on peut se concentrer, on a pris des notes sur les éléments clés qu'on vient d'entendre, pour les rapprocher des deux autres qu'on va entendre, pour se mettre en débat dans cette mise en relation, justement, entre d'un côté des entrepreneurs de l'économie solidaire accompagnateurs, au centre, on peut dire, moi je représente un réseau de l'expertise indépendante, donc tout ça va faire un peu lien, et effectivement, ce qui serait important après, dans la discussion qu'on va avoir, encore une fois, je pense qu'on pourra toujours se la prolonger autour du repas pour ce qui nous intéresse, de continuer. C'est peut-être par contre de dire qui on est pour de façon à pouvoir voir quels sont les niveaux d'interpellation. Simplement, ce qu'on peut dire de ce qu'on a entendu, c'est que c'est difficile pour vis-à-vis des institutions de rentrer dans des cases, vis-à-vis des associations qui entreprennent. Il y a la notion de case à rentrer dans une institution. La notion du financement est fondamentale, sachant qu'on a plus de facilité, si on en croit la Maison du Sel, à avoir du financement au démarrage. Reste, et on avait presque le sentiment qu'il aurait du financement au démarrage en mesure où ils sont engagés à s'autofinancer dans 3 ans. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir du financement, nos partenaires le diront, quand on s'engage dans un futur d'autofinancement. Autre question, est-ce qu'on doit être autofinancé quand on joue un rôle de service public avec en même temps le service public de notre pays? Autant d'éléments qui sont mis en débat. On vient de voir évidemment deux manières très différentes d'entreprendre. Elles sont toutes les deux intéressantes, et peut-être on va passer tout de suite à la boutique gestion de l'Essonne. Alors, comme j'ai pas mon papier,
de Paris,
je peux plus lire votre nom de mémoire.
Isabelle Laragnès, en plus c'est un nom très compliqué. J'ai peur d'être beaucoup moins poétique que notre ami de la ferme du bonheur, peut-être plus terre à terre. Donc moi je représente la boutique de gestion de Paris. Une boutique de gestion, en deux mots, c'est une structure associative qui accompagne des projets. Donc notre métier, c'est d'aider à l'émergence de projets et aider à la au montage de ce projet, le rendre viable, trouver des financements. On en parlera après avec la plateforme Paris Initiative Entreprise, de les aider au démarrage et de les aider après le démarrage, évidemment, au développement, dans les meilleures conditions. Alors, les boutiques de gestion, nous sommes toutes des structures indépendantes, il y en a 100 en France, donc nous sommes tous déjà des gestionnaires, des directeurs quand on a un poste de directeur au sein des boutiques de gestion, donc une équipe salariée. Sur Paris, on couvre 3 territoires, Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, et c'est un peu plus d'une 20aine de personnes. Donc on peut retrouver les boutiques de gestion donc sur l'ensemble du territoire, donc des initiatives privées, associatives. On se retrouve toutes boutiques de gestion autour d'un triptyque, d'une éthique déjà, qui s'appelle Initiative et Solidarité. Donc on partage tous cette charte. Notre objectif, c'est de garantir en fait le droit et les moyens d'accès à l'initiative pour tous, quel que soit son origine, son niveau de formation, son âge et le degré de maturité en fait de son projet. Et on tente aussi, tant que faire se peut, de promouvoir l'émergence d'un développement économique solidaire. C'est un peu plus ce qui nous intéresse aujourd'hui. Notre mission, l'éducation économique. Notre rôle, c'est de transmettre une culture économique pour rendre les gens en fait autonomes. Donc autonomes après dans la direction de leur projet. Et notre métier, accompagner, ça veut dire, on décrit en général nos actions en 3 parties, un accueil, un accompagnement au montage du projet et un suivi post-création. Donc un accueil, l'objectif c'est de transmettre une méthodologie, faire le point sur le projet, faire un diagnostic et tracer les étapes qui vont arriver derrière. Si on passe cette phase-là, on passe donc dans la deuxième phase d'accompagnement. Donc là, l'accompagnement, c'est d'aider le créateur de projet, l'aider, l'accompagner, le piloter, mais jamais faire à sa place. Donc de réaliser une étude de marché, vérifier que ses produits, ses services vont trouver des débouchés sur un marché. Une étude technique, qui fait quoi, comment, avec quoi, quel est le besoin en termes de matériel, en termes humains, bien sûr. Une étude ensuite financière, donc la deux parties, j'ai besoin de quoi pour monter mon projet, qu'est-ce qu'il me faut au niveau du matériel, on valorise, au niveau du fonds de roulement, j'ai besoin d'avance, j'ai besoin d'argent, de liquidité. Et ensuite la deuxième partie, pour faire très simple, sur les prévisions financières, un prévisionnel en fait sur une première année, en général on travaille plutôt à 2 ou 3 ans, donc quel est le chiffre d'affaires que je dois réaliser pour faire face à mes charges, quels sont les moyens que je vais me donner pour pouvoir réaliser ce chiffre d'affaires. Voilà, et ensuite on oriente évidemment vers les partenaires, et notamment les partenaires financiers dont on parlera tout à l'heure. Sur les projets purement solidaires, malheureusement, le constat, c'est qu'il y en a assez peu. Sur Paris, il y a plus de 2000 personnes qui viennent nous voir. Des projets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, j'ai un peu élargi, il y en a assez peu. Des projets, des porteurs de projets associatifs, on en croise beaucoup. Passer la phase accueil, il en reste beaucoup moins. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, une association, oui, c'est moins cher, on peut trouver du financement public, enfin des tas de bêtises. Donc on revient sur des choses beaucoup plus professionnelles. Hein. Pourquoi vous avez choisi une structure associative, enfin ce choix associatif, pourquoi avoir fait ce choix si vous êtes sur une activité purement lucrative, qu'est-ce qui vous anime? En général, c'est souvent des fausses choses, quoi, hein, des fausses images qu'ont les gens, des fausses représentations. Bon, heureusement, il y a quand même des associations, des projets associatifs qui viennent nous voir et qu'on soutient. Que ce soit du service de proximité, hein, dans les principaux projets en fait qui nous sont soumis. Beaucoup de choses plutôt dans le cadre du commerce équitable. Alors ça, c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis dans le réseau. Commerce équitable, on n'en parlait pas il y a plusieurs années. C'est vrai que aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs qui nous sollicitent pour ce type de projet. Alors là, c'est pareil, hein, il faut faire un tri. Il y a du vrai commerce équitable, il y a du faux, et il y a des gens qui s'approprient en fait des termes qui maîtrisent assez mal. Je sais pas, je peux vous parler de l'expérience. Je te laisse peut-être parler de l'expérience des t-shirts, hein, que tu connais bien. J'avais accompagné une personne de la fabrication de produits art de la table, fabriqués en Inde et vendus ici en France. C'était un jeune qui en fait finissait une mission de bénévoles en Inde et qui avec un ami anglais ont décidé en fait de maintenir un lien avec le pays, d'essayer, parce qu'il est rentré en même temps en France après cette période bénévole, donc quoi faire, de quoi vivre, quelles étaient leurs formations à chacun. Donc ils ont développé une gamme de produits dessinés par des designers ici, fabriqués en Inde et vendus donc en partie en France et le parti en Angleterre. La partie en Angleterre s'est très bien développée, la partie en France s'est très mal développée. Je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps, il espère pouvoir relancer son activité après avoir en fait réparé les premières erreurs de sa première expérience, c'est-à-dire un problème de qualité là-bas, sur le lieu de production. Il faut vraiment assurer en fait une qualité exigée ici par les consommateurs, donc avoir un contrôle qualité très très strict, et là c'est difficile de monter des partenariats sur de long terme, où les gens en fait très souvent partent sur d'autres projets là-bas et en étant ici c'est très difficile de les encadrer. Et un problème de distribution ici. Hein, on veut révolutionner, changer les choses, et puis finalement ça c'est pas aussi simple que ça. Donc notre rôle c'est de les aider, hein, de les aider à tester ces idées, mais de prendre conscience de la réalité et que pour eux c'est absolument indispensable d'intégrer des réseaux bien spécifique pour pouvoir écouler leurs marchandises. Là, l'histoire de ce jeune garçon, il s'est présenté dans beaucoup de grands magasins parisiens. Ses produits ont été référencés par un, donc ça a été vous nous amenez tout, demain on fait les photos, vous êtes référencé sur le catalogue, là il m'appelle, ça y est, c'est parti, c'est super. Et puis finalement, à l'époque, c'était 5000 francs de commande. C'est tout, qu'est-ce qui se passe? C'était un test, on a dit, bon, ben c'est bien, c'est un test, l'année prochaine ça ira mieux. L'année prochaine, on a dit, non merci monsieur, on vous référence plus. Et en fait, le magasin avait fabriqué lui-même toute une gamme de produits, en fait, identiques. Donc, on va pas non plus caricaturer en disant qu'en Angleterre ça se passe bien et ici pas bien. C'est pas ça du tout, c'est qu'a priori, il avait pas identifié les bons réseaux de distribution, il a tenté. Il a perdu et il est en train de réorganiser son projet d'une façon complètement différente. En tous les cas, des jeunes, souvent les gens sont jeunes, qui viennent, qui se présentent avec des projets. Donc il y a beaucoup beaucoup de vêtements, beaucoup d'art de la table, beaucoup d'objets de décoration en lien avec donc les pays du Sud, essentiellement l'Inde, l'Afrique aussi, pas mal. Qu'est-ce qu'on nous soumet d'autre comme projet? C'est aussi un peu à nous, à sensibiliser les gens. Alors je sors un petit peu du cadre, mais un entrepreneur dans le bâtiment qui vient nous voir de temps en temps, c'est pas de temps en temps, c'est régulièrement, je lui pose la question, quel type de produit vous allez utiliser, qu'est-ce que vous allez acheter, qui sont vos fournisseurs, est-ce que c'est des fournisseurs classiques, est-ce que...
Non pas mais freiné, écourté. Voilà. Bon, alors juste finir en deux secondes. Donc notre rôle, c'est donc d'aider à l'émergence de ces projets, de vérifier avec le créateur la viabilité de son projet, de l'aider à se lancer dans les bonnes conditions, et comme je vous disais, de les sensibiliser, les entrepreneurs en bâtiment. On dit simplement quel type de produit vous allez utiliser. Est-ce que c'est des peintures avec des vernis? Est-ce que ça vous intéresserait pas de vous pencher un peu sur d'autres produits? Enfin, je sais pas, il y a l'amiante, hein, tout le monde en parle. Il y a qu'est-ce que vous êtes en train de nous inventer aujourd'hui? Donc c'est à nous aussi à les sensibiliser sur d'autres pratiques. Puis juste la dernière petite expérience dont je voulais parler, c'est une structure qu'on a créée au sein de la boutique de gestion, qui est une couveuse d'entreprise, très soutenue par la ville de Paris, qui aide en fait les porteurs de projets à tester en grandeur nature leur projet. C'est-à-dire, avant de créer ma boîte, j'ai une idée, j'ai monté mon projet, je suis prête à me lancer, mais finalement j'ai pas tant de clients que ça, j'en ai peut-être même aucun. Est-ce que ça serait pas bien de passer dans un petit sas quelques temps, quelques mois, 3 mois, 6 mois ou un peu plus, pour tester mon activité, c'est-à-dire ne pas prendre de risques, en fait utiliser le numéro Siret et toutes les ressources de la couveuse pour pouvoir chercher des clients, facturer, réellement réaliser ma production, la vendre et faire le point, continuer évidemment à être accompagné et faire le point au bout de quelques temps pour voir si ça vaut le coup d'aller plus loin ou d'arrêter. Et d'ailleurs le jeune garçon là, qui avait monté son projet et qui n'a pas abouti donc sur ses produits d'art de la table indien est passé par la couveuse, il a décidé de ne pas créer. Comme je dis, je l'ai recroisé là aujourd'hui, il va repartir sur un projet mieux ficelé. Voilà, donc après le montage, en général, on passe à la phase financement et on passe la parole à Paris Initiative Entreprise.
Bonjour, je suis Sandrine Barrière de Rieux, je suis chargée de projet à Paris Initiative Entreprise. Paris Initiative Entreprise, c'est une association qui a été créée à l'initiative notamment de la ville de Paris en 2000. Le constat était parti d'une étude qui montrait qu'à Paris, il y avait de nombreuses structures, et Isabelle vient de l'illustrer, qui accompagnaient des porteurs de projets, mais qu'après, pour passer à la phase de création, il y avait un besoin de structures qui s'occupent de financement. Donc je ne m'occupe pas d'accompagnement en tant que tel, mais plutôt de financement de projets d'entreprises ou d'associations. En fait, si on regarde ce qu'attend, quand on a monté son projet, qu'on a tout validé, il y a un besoin d'argent. Donc souvent, il y a un besoin quand même, on arrive difficilement à autofinancer son projet. Donc il faut tout de suite aller rencontrer un banquier. Et un banquier, ça a au moins 3 attentes. La première, c'est d'avoir un business plan bien monté et qui montre que la structure va être pérenne et que tout a été envisagé. Ça, c'est le premier point. S'il n'y a pas ce point-là, on passe même pas aux autres points. La deuxième attente du banquier, c'est tout simplement que la personne ait ce qu'on appelle des fonds propres, des apports personnels. Et puis aussi, parce que les banquiers sont des gens, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, des gens frileux, donc qui demandent souvent des garanties. Donc on pouvait répondre à la première demande puisqu'il existait des organismes d'accompagnement. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir répondre aux 2 autres attentes du banquier, à savoir les apports personnels et les garanties. Donc un banquier, il faut savoir qu'en général, il va demander entre 30 et 50% d'apports personnels. Alors soit on casse sa tirelire et on a beaucoup d'économies, soit on fait le tour de la famille. Mais malheureusement, ça, c'est pas toujours suffisant. Donc nous, pour permettre aux gens d'avoir les apports personnels nécessaires, on dispose de 3 outils principaux, enfin de 2 outils principaux. Le premier, ce sont des prêts d'honneur, ce sont des prêts à taux zéro qui s'adressent à des structures, qui s'adressent à des sociétés ou à des entreprises individuelles. C'est des entreprises qu'on va dire entre guillemets classiques, mais qui peuvent tout à fait rentrer dans le champ de l'économie sociale ou solidaire. C'est le commerce de proximité, effectivement, c'est les services aux personnes principalement. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Denis Herbel tout à l'heure, c'est vrai que quand on est une association, c'est pas toujours, on se voit la porte fermée pour beaucoup de financement. Par le biais d'une structure qui s'appelle France Active, on a toute une panel d'outils qui sont vraiment liés, réservés cette fois-ci, soit aux associations, soit à ce qu'on appelle des structures d'insertion par l'activité économique. Ce sont des entreprises d'insertion, ce sont des associations intermédiaires ou encore des régies de quartier. Pour cela, on dispose de 3 outils. Alors, je peux vous les citer, je ne vais pas les développer pour faire court, mais je suis à votre disposition pour vous en parler. C'est le premier outil, ça s'appelle le contrat d'apport associatif. C'est une aide qui est remboursable, hein, mais à taux zéro, et qui va de 5 à 30 000 euros. Enfin, de 5 000 à 30 000 euros. La deuxième, c'est un fonds commun de placement, insertion, emploi, qui s'adresse à des structures en création, mais aussi en développement, qui va de 6 000 à 320 000 euros. C'est rare, 320 000, hein. Et la dernière, c'est une société d'investissement, c'est la Société d'investissement France Active, qui, elle, va de 15 000 à 320 000 euros aussi. Alors attention, tout le monde ne peut pas piocher et prendre tous les financements. Il y a des critères, il y a des conditions, mais là encore, mon objectif, c'est pas de tout vous expliquer là, mais je suis tout à fait à votre disposition pour examiner. On fait au cas par cas, selon les fonds propres des structures, etc. Alors, donc on a pu répondre à tout ce qui était apport en fonds propres. Et donc le dernier point, c'était les garanties. Ben, pareil, soit on a le banquier va vous demander si vous avez un appartement, ce qu'a votre famille, etc. Puis malheureusement, il y a des personnes qui ne peuvent pas mobiliser de garanties personnelles. Donc pour ces personnes qui sont souvent des personnes en exclusion, entre guillemets, soit des demandeurs d'emploi, soit des bénéficiaires du RMI, France Active a mis en place des garanties qui peuvent aller jusqu'à 65% de l'emprunt bancaire. Donc pareil, c'est un outil qu'on active très souvent chez nous. Donc là, je pense que je vous ai dépeint, sans rentrer trop dans le détail, les outils dont on dispose. Je peux peut-être vous parler de comment ça se passe, c'est à travers un exemple pour bien montrer le lien qu'il y a entre l'accompagnement et le financement. Tout à l'heure, Isabelle parlait de commerce équitable. Il y a une très jeune fille qui a choisi, je crois que c'était l'an dernier, de monter une société qui fabrique des t-shirts dans le cadre du commerce équitable, qui est passée pendant 6 mois à la couveuse de la boutique de gestion de Paris, qui a pu tester que, ben, justement, elle les fait fabriquer en Afrique, que ces produits, ils pouvaient être, mais ça a été long, conformes à ce qu'on attendait en Europe. Donc elle a pu tester son produit, elle a pu tester son marché. Et elle est venue ensuite nous voir, une fois que tout ça avait été validé par la boutique de gestion. Nous, on a expertisé le projet, il nous a paru intéressant. Elle a été présentée en comité d'engagement. Donc, le comité d'engagement de Paris Initiative Entreprise sont des chefs d'entreprise qui décident ou non d'octroyer le financement. Dans 70% des cas, ils disent oui, donc c'est pas des gros méchants. Et cette jeune fille, bah, malgré son jeune âge et un domaine où le banquier peut avoir des réserves pour y aller parce que c'est pas fabriqué en France et dans des pays qui... que France Active s'est portée garance pour son emprunt bancaire. Et ben aujourd'hui, c'est un beau projet qui marche bien, donc voilà, on est content. Pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que monter des projets, là aussi, tout à l'heure, Denis Herbel l'a dit, quand on est une association, ben on vous en demande autant, voire plus que pour une entreprise classique, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu des banquiers. Moi, je dirais qu'il faut tout d'abord une forte implication du porteur, après de son conseil d'administration ou son président. Je suis toujours très étonnée de voir des associations qui viennent demander de l'argent. Ça implique des choses et des fois il arrive que je ne vois pas le président, alors qu'en termes de risque, c'est quand même lui qui prend tous les risques. Juridiquement, oui. En termes d'accompagnement, pour nous, un accompagnement, une phase d'accompagnement, c'est indispensable. Je crois qu'on a chacun nos métiers. Et que c'est toujours bien d'aller voir des professionnels. En plus, ça permet d'avoir un avis plus neutre. On n'est jamais très neutre quand c'est son propre projet. Et puis aussi, oui, les démarches sont longues. Ça peut prendre des mois, voire des années, parce que c'est difficile de trouver un local, par exemple, surtout à Paris. Nous, c'est un des grands constats qu'on peut faire. Ça peut être très long, mais bon, pour terminer sur une note positive, je dirais que malheureusement, on finance beaucoup de projets. On en a financé plus pratiquement 150 l'an dernier. On espère faire mieux cette année. C'est difficile, non, mais tout à fait possible. J'ai juste oublié de dire un détail, je m'occupe de structures comme ça à Paris intramuros, c'est-à-dire les 20 arrondissements. Par contre, comme pour les boutiques de gestion, il existe d'autres structures comme la nôtre partout en France. Pareil, vous pouvez nous contacter et puis on vous indiquera les personnes les plus adéquates pour vous aider selon votre territoire. J'ai essayé de faire court.
Bravo, bravo. Alors, je suis en train de faire un petit schéma pour se situer les uns les autres, pour situer tous les acteurs qui sont dans cette salle et se mettre en discussion. Peut-être je vais demander de me faire mon dessin. Non, tu peux en même temps. Donc apparemment les plateaux repas sont pas arrivés, donc on a un petit peu de chance. Alors un peu pour situer un peu comment on se situe là ce matin. Donc, je dirais, moi, je me le suis fait là, je sais pas, ça marche comme ça? C'est quasi magique. Voilà. On a une espèce de triangle comme ça à l'intérieur. C'est la mairie de Paris c'est l'initiative de la mairie de Paris qui nous réunit aujourd'hui. Donc, il y a une équipe municipale qui a une volonté de projet, on va dire. Municipale. Voilà. Alors, il y a des agents territoriaux, apparemment, au niveau. Donc, il y a l'équipe municipale, on va dire que c'est les élus. Il y a en principe dans une ville des habitants ou des citoyens. Malheureusement, on parle souvent d'usagers, même de clients. Donc il y a beaucoup de choses pour le dire. Alors, moi, je vais dire comme ça. Je vous le propose comme ça. Hein. Et puis, les entrepreneurs, on va dire que nous sommes tous sous des formes diverses et variées aujourd'hui. Alors tout ça, pour faire le tout, c'est qu'est-ce qu'on dit, qu'on essaye de faire ensemble. On essaye de faire société, si possible, de faire une société plus, peut-être qui sont porteurs de valeurs, qui ne sont pas forcément les sociétés libérales capitalistes dans lesquelles on est, contraints en tout cas d'exister tout de suite et maintenant. Donc, faire société, faire ville, faire quartier, faire projet, tout est possible. Et donc, c'est cet ensemble d'éléments, en fait, est en interaction. C'est-à-dire qu'une équipe municipale qui voudrait rentrer en contact avec ses habitants sans associer les agents territoriaux qui sont eux-mêmes directement en contact avec les habitants qui ont des demandes, des besoins, des choses comme ça, sans tenir compte de l'ensemble des projets qui sont émergents et qui ont besoin d'aide. Il y a plus de relations, on va dire, entre en général les habitants et les entrepreneurs, qui sont parfois qui vont. On va à la ville chercher le service public, mais quand est-ce qu'on fait ensemble des choses? Quand est-ce qu'on produit du projet? Et autour de ça, il y a peut-être l'expertise indépendante, l'expertise citoyenne indépendante, qui peut faciliter l'émergence des projets sur le plan à la fois politique, technique et humain. Donc, c'est pour dire un peu par rapport à l'ensemble des choses qu'on a écouté, donc des exemples. Bien sûr, ce matin, on a écouté quelques élus, des exemples de manière d'entreprendre, de manière de faire société, manière de vivre avec les autres dans son quartier, de manière de tenter des aventures humaines, économiques et techniques. Et puis, on va considérer qu'on est tous des citoyens. Et puis les agents territoriaux peut-être dans la salle. Donc voilà des modes un peu pour se situer, dire qui on est, puis se mettre en débat avec cet ensemble de choses, poser des questions aux intervenants, se mettre en discussion ensemble. Alors je sais que on nous avait demandé, parce que Michel me dit c'est 13h, il faut que tu arrêtes. Denis a été voir, les plateaux repas sont pas arrivés. On peut se décider de se donner le temps, un peu de temps, on se l'a dit tout à l'heure, on continue. Je n'ai plus qu'à laisser la parole à qui veut la prendre tout de suite. On lance.
Alors, je n'ai pas son micro, je pense que j'ai le voix qui porte assez.
C'est pour l'enregistrement, c'est mieux d'avoir les voix dans le micro, excuse-moi.
Donc, je suis Bruno Galarati, j'appartiens à une association qui s'appelle IES 91, qui est basée sur l'Essonne. Cette structure a pour vocation d'aider les porteurs de projets. Alors, on est confronté à plein de difficultés. L'une des premières difficultés, c'est le projet collectif n'existe pour ainsi dire pas au niveau institutionnel. C'est-à-dire que quand quelqu'un va à la chambre de commerce et d'industrie et demande « Est-ce que vous connaissez les scopes ?» En gros, on l'envoie dans le placard, quoi. C'est pas une blague, hein. Impossible de savoir ce qu'est une scope à la chambre de commerce et d'industrie. Donc, on a déjà cette difficulté-là. Ensuite, on a la difficulté sur les territoires de mettre en relation les gens dans le collectif. C'est-à-dire, travailler sur un projet collectif, c'est quelque chose de très long. Est-ce qu'on peut parler de projet solidaire sans parler de projet collectif? Ça, c'est une autre question. Parce que si on est que sur l'individu, et sur un projet porté que par un individu, vers quoi on tend? Et tout ça nous amène, en fait, souvent à « je monte un projet pour de l'emploi, je monte un projet pour de la richesse individuelle ». Mais en fait, si on reprend l'histoire du triangle, le projet doit servir la collectivité, l'individu qui monte le projet, mais aussi l'habitant. Alors là, on va se retrouver sur le système de la SIC, mais on va peut-être pas aller tout de suite jusque-là. Mais dans quelle mesure a-t-on les outils pour amener les gens à travailler sur le collectif? Et il est vrai que dans les stages de création d'entreprise, on rencontre des gens qui n'ont pas les compétences et les appétences pour porter seul un projet. Dans quelle mesure est-ce qu'on les amène, encore une fois, à fonctionner sur le collectif et à se regrouper entre eux pour aller vers ça? Alors, la ferme disait tout à l'heure, j'ai commencé seul, si j'ai bien tout suivi. Denis Arbel, je crois qu'ils sont deux sur le projet de la Maison du Sel. Et puis, j'étais pas là avant, donc j'ai pas entendu. Mais c'était tout, il n'y avait pas avant. Donc, voilà. Tout ça pour dire, c'est quels sont les outils qu'on a aujourd'hui pour aller vers le collectif et pour faire en sorte que les projets soient portés vraiment par un ensemble, pour un ensemble et vers un mieux-être ensemble.
Merci. C'est une interpellation. Qui c'est qui veut la saisir?
Yves Forestier, de l'Union Régionale des SCOP. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que les chambres de commerce ne connaissent pas du tout les SCOP. Et je dirais qu'il y a même d'autres structures qui sont même ici représentées, qui connaissent très peu les SCOP. Je dois dire que par rapport aux exemples qui ont été cités dans cet atelier, je suis un peu dubitatif. Parce que, alors je vais être provocateur, hein, parce que quand on parle de la Maison du Sel, comment on tient compte de ces échanges pour la solidarité nationale? Je veux parler de la sécurité sociale, des caisses de retraite, etc., etc. Il y a quand même un sacré point d'interrogation à la sortie. L'expérience de la ferme du bonheur, c'est très bien, mais je trouve que c'est tellement provocateur que je trouve que c'est quand même une chance qu'au bout d'un certain temps, la mairie de Nanterre ait accepté de financer le projet. Mais ce sont des choses qui font évoluer la société. Mais pour moi, ce n'est pas de l'entrepreneuriat solidaire. C'est une démarche qui peut être collective, mais qui n'est pas forcément solidaire. Quant aux exemples qui ont été donnés des personnes qui accompagnent les projets, vous nous avez cité un exemple d'une personne qui faisait faire un design en France et qui se faisait réaliser aux Indes. Bon, je veux bien, mais dans le système capitaliste, ça s'appelle de la délocalisation. Alors, je me pose des problèmes de ces exemples, et à mon avis, les exemples qui ont été présentés n'étaient pas les meilleurs exemples pour l'accompagnement d'entrepreneuriat solidaire. L'Union régionale des SCOP est une structure qui fait de l'accompagnement de projets collectifs et solidaires, et je pense que ça mériterait d'être aussi exposé.
Bah, c'était tout à fait possible au départ que vous soyez associé. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas été, mais je pense qu'il faut se méfier de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Peut-être qu'on peut dire on a vu des exemples, il y en a d'autres. Il y a Didi, on est tous égaux et différents, on est tous singuliers et pluriels, et que peut-être, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne pouvait pas citer tous les exemples du mode d'entrepreneuriat dans un atelier comme ça. Ce qui est intéressant, c'est peut-être dire entre ce pôle-là et ce pôle-là, moi je me situe autrement, il y a d'autres exemples. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est que par rapport à ce que vous, votre proposition, c'est peut-être d'envoyer une contribution écrite ou compte-rendu pour dire, eh bien, une conception d'entrepreneuriat, une conception de l'accompagnement qui pourrait être associée à ajouter pour que ce soit pas perdu. Parce que votre expérience peut être tout à fait aussi intéressante, mais peut-être pas se poser en termes, les autres sont intéressants, pas intéressants. Je pense que tous les exemples ont été intéressants. Ce serait dommage de se priver de votre expérience. Si vous pouviez apporter votre contribution écrite, ce serait vraiment bien. Eh ben voilà.
Non, très rapidement, mais j'ai l'impression que vous avez déjà répondu. Je suis pas du tout d'accord avec votre analyse sur les deux, sur les trois qu'a cité. Dire que la fabrication de t-shirts dans le cadre du commerce équitable qui vivre à faire vivre le producteur de sa production, c'est de la délocalisation, c'est une analyse qui est un petit peu rapide, me semble-t-il. D'autre part, dans les exemples qui sont cités, et dans l'économie solidaire, je veux dire, les entrepreneurs se placent à la fois comme citoyen, comme consommateur et comme producteur. Et c'est pour ça qu'on emploie le mot économie solidaire. Et je trouvais que les trois exemples qui ont été donnés, dans la mesure où ils étaient totalement diversifiés, étaient très intéressants. La ferme du bonheur, à partir d'un rêve individuel extrêmement assez fou, complètement fou, est arrivé à casser une logique qui elle-même aboutit à une impasse. Il y a des tas de choses auxquelles on n'a pas de réponse. Et bien, c'est pas parce qu'on n'a pas de réponse qu'il ne faut pas s'y lancer. De la même manière, les sels se placent, de manière générale, et la maison du sel, dans cette même logique. Ils se situent délibérément en dehors du champ de l'emploi. Ils reprennent l'économie par un autre bout en essayant de réintroduire de la réciprocité pour retrouver une économie solidaire. Et dire ces gens-là ne payent pas de charges sociales quand ils se donnent un coup de main entre eux, donc ce sont des mauvais citoyens, c'est tellement réducteur, si vous voulez, que ça peut couper les ailes à différents projets novateurs dont on a besoin dans ce contexte de guerre économique et qui cause tous les dégâts qu'on voit. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il y a d'autres formes, évidemment, d'économie solidaire, plus structurées et historiquement, je veux dire, beaucoup plus armées, que sont par exemple les SCOP que vous représentez.
On me demande absolument d'arrêter le débat et comme j'avais pas envie mais comme j'avais pas envie que parce qu'on commence maintenant à pouvoir commencer d'échanger, Isabelle Morin me dit qu'on a la chance d'être dans la seule salle qui peut être utilisée comme on veut, donc pour ceux qui le souhaitent, on peut aller chercher le plateau repas parce qu'il y a ceux qui l'ont commencé le plateau repas à 6h ce matin, on peut pas perturber le travail, on peut aller chercher le plateau repas. Et on peut remonter et se mettre en débat pour continuer jusqu'à 14h si on le souhaite. Donc, sinon, c'est la règle de la logistique, là. Donc, voilà. Je suis désolée, c'est ou on va chercher le bateau et on revient, ou on arrête. Moi, je suis pour cette proposition. Je ne sais pas si ça vous intéresse certains, donc je vous attends. Et on continue. Alors, je ne sais pas si le monsieur du micro est d'accord avec cette proposition. Ça s'est fait sans concertation, je suis désolée. On va chercher le plateau, puis t'es d'accord? Oh, bah super.
Bon, non, il y a du grisou dans la maison du sel, hein.
Excusez-moi. Je reviens à vous. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander une seconde d'attention? Alors, parce qu'on a décidé de manger ensemble pour se mettre en discussion. Finalement, on discute par petits groupes, c'est très bien, il fallait aussi prendre le temps de manger. Mais je viens de vérifier la montre et on est encore dans l'urgence malgré le nouvel espace de liberté qu'on s'est donné. On n'en finit pas de courir après le temps. Il est 2h-10. Pardon, excusez-moi. Il est 2h-10 et donc on doit finir à 2h30. Et enfin, la séance première recommence à 2h30. Donc, moi, je pense que ce qui serait bien, peut-être, c'est que ceux qui souhaitaient prendre la parole, il y avait deux mains qui étaient levées, il y avait Pierre, Michel, excuse-moi, qui avait pris dans un élan de discussion, alors soit c'est coupé, soit on reprend, ce serait peut-être bien si ceux qui souhaitaient pouvoir prendre la parole et intervenir puissent le faire. Si vous nous dites, ah non mais finalement on préfère discuter entre nous, ça va, ça me va aussi. Qui lève la main pour prendre la parole dans un échange plus collectif, ou c'était une bonne idée tout à l'heure, ce n'est plus une bonne idée maintenant. Pierre, tu veux? On finit le gâteau. D'accord. D'accord, mais après on saura qu'on n'a plus qu'un quart d'heure pour se dire tout ce qu'on a de définitif à nous dire. Est enregistré et que je suis un peu à la fois là pour faire émerger les échanges et en rompre d'autres. C'est une injonction un peu paradoxale. Je suis désolée, c'est comme ça. Donc, on va reprendre les choses où elles en étaient. Peut-être si vous souhaitez vous rapprocher pour écouter ce que les uns et les autres disent. Donc, Pierre Guillard-Schmitt souhaitait prendre la parole avant le déjeuner et souhaite toujours la prendre après le déjeuner, donc je lui donne.
Oui, merci. Donc moi je voulais surtout intervenir en tant que coopérateur de production, puisque Je viens de ce milieu-là et j'étais évidemment, je n'étais pas du tout en accord avec ce qu'a exprimé Yves Forestier de l'Union régionale des coopératives d'Île-de-France. Je regrette qu'il soit pas là. Je trouve que nous avons une responsabilité, c'est celle de permettre aux gens qui prennent le risque d'initiatives, fussent-elles au départ individuelles, de pouvoir mener leur projet jusqu'au bout. Et quand il s'agit par exemple de la ferme du bonheur, que moi je connais depuis très très longtemps, c'est un exemple absolument pratique d'un projet qui est né d'une initiative et d'un besoin individuel et qui finalement débouche sur un projet collectif, non seulement un projet collectif au niveau de la ferme elle-même, mais un projet qui va même au-delà, puisque il est porteur de toute une action extra-exploitation. C'est-à-dire qu'il influe sur son milieu et il prend en compte son milieu. Donc je voulais évidemment, je ne pouvais pas partager l'avis qui avait été formulé par notre ami de l'Union régionale d'Île-de-France. Moi je voulais intervenir aussi sur un autre plan, c'était de savoir si on pouvait parler d'économie solidaire. Il est vrai que c'est la journée de l'économie solidaire de la ville de Paris et qu'on est là pour parler des projets de Paris. Mais je pense que d'emblée, si on parle d'économie solidaire, on ne peut pas faire l'impasse de situer cette volonté de développer et de promouvoir l'économie solidaire sur un plan beaucoup plus général, car la solidarité n'a pas de frontières. Et que je crois qu'il faudrait essayer de fédérer la promotion et je veux dire le soutien et l'aide aux économies solidaires un peu partout, c'est-à-dire faire que les expériences puissent se croiser, puissent profiter les unes aux autres. J'avais, dans le cadre de la préparation de cette journée, en travaillant dans cet atelier, fait une proposition qui n'a pas été retenue, et je pense que c'était, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est bien, c'était de proposer la projection d'un film documentaire qui a été réalisé auprès de coopératives de production au Burkina Faso sur le thème de l'économie solidaire. Et je trouvais cette idée qui aurait pu être intéressante, c'est de pouvoir de montrer les démarches qui ont amené ces groupes à se constituer en entreprises solidaires, et puis de voir combien ces groupes restent toujours dans une fragilité, mais dans une nécessité, et que c'est une responsabilité. Par exemple, moi qui appartiens plus au milieu de l'économie sociale, ça m'interroge en disant je ne peux pas avoir le développement de l'économie autre que libérale uniquement sous l'angle de l'économie dite sociale aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'exclus dans notre monde, à Paris certes, dans notre pays et dans le monde entier, et que c'est une responsabilité de citoyens que de prendre en compte les gens qui sont dans les situations les plus difficiles. Donc voilà, je pense que c'est important que aussi, si on parle d'économie solidaire à la ville de Paris, on le fasse pas simplement dans une vision parisienne, hein, c'est dire, mais que c'est une alternative, c'est une alternative économique qui interroge le citoyen. Et le citoyen, c'est le citoyen du monde. La solidarité, c'est nécessairement international. Ça peut pas se concevoir uniquement sur un plan local. On développera bien la solidarité locale à condition que aussi on ait la volonté de la développer sur un plan international. Voilà ce que je voulais dire.
Ben, merci Pierre. Applaudissements. Ben, si c'est bien. Vous souhaitez poursuivre ? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole après Pierre? Alors, parce que en fait, on s'était quitté en se disant, mais quel partenariat est possible entre une initiative citoyenne, une collectivité territoriale, des entreprises, des habitants qui auraient des besoins, les entreprises, l'expertise qui serait une autre expertise que la modélisation du modèle capitaliste avec ses grilles de gestion, ses critères, mais bien une expertise qui favorise l'émergence de projets singuliers. Et puis Pierre nous emmène d'un seul coup du local au tout. Et finalement la question est presque la même, parce que la question c'est comment se relier, entreprendre ensemble, d'où part l'initiative. Oui. Peut-être le présenter aussi. Oui, mais tu l'as fait tout à l'heure.
Sur l'Essonne, le Conseil Général est en train de mettre en place un agenda 21. Alors c'est un grand mot ce truc. Alors on va redescendre du global au niveau départemental. C'est déjà un petit pas. Et cet agenda 21 était mis en place avec un système de forums. Ils ont mis en place 6 forums sur l'ensemble du territoire où ils discutaient avec les citoyens. En l'occurrence, ils attendaient un questionnement des citoyens. Seulement des citoyens qui ne savent pas ce qu'est le développement durable, ils ont des questions à poser bien sûr, mais pas obligatoirement dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire dans le sens d'aller vers l'avant dans le développement durable. Donc on a entendu tout et n'importe quoi bien évidemment. Derrière ça, ils ont mis en place des groupes de travail avec entre guillemets des gens initiés, parce que pour participer à ce type de réunion il faut déjà savoir un tant soit peu de quoi on parle, et puis il faut être motivé en plus. Et ça a donné 597 propositions économiques. Alors il y avait 3 chapitres, il y avait les transports, mieux vivre ensemble, développement économique et je sais plus quoi. Mais quand on parle de développement économique et quand on parle de développement durable, pour la plupart du temps pour les gens c'est antinomique, ça fonctionne pas ensemble. Et quand on lit, j'étais sur le développement économique, et quand on lit développement économique, la plupart du temps, les gens, ils sont pas du tout dans ce qu'on entend, nous, par développement économique, c'est-à-dire une économie au service de l'homme et non pas l'opposé. Et là, c'est dramatique. Parce qu'en fait, on donne des billes au territoire pour aller dans le sens où il veut lui. Alors qu'en fait, il prend pas en considération l'option du citoyen. La première démarche qui aurait dû peut-être être faite, c'est sensibiliser le citoyen à ce qu'est le développement durable. Commencer par de l'information.
Et en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc en fait, ils ont balancé 500 000 prospectus dans les boîtes aux lettres avec un questionnaire. Type de question du questionnaire, souhaitez-vous que les entreprises soient HQE ? Vous imaginez la tête des gens qui reçoivent ça dans leur boîte aux lettres. Alors c'était une des questions, bien sûr. Et les gens ne savent pas ce que c'est. Donc en fait, quand on dit faire participer le citoyen aux décisions du politique pour faire avancer les choses, ah ouais, c'est bien, mais encore le citoyen, faudrait-il comprendre de quoi il s'agit. Alors, dans tous les cas, et je l'ai dit l'autre fois à un des conseillers généraux, il faut que nous utilisions les élus. Ah ouais, c'est évident. Alors, s'ils sont pas, si on ne peut pas travailler avec eux, dans un premier temps, on n'avance pas. Et si en plus on ne peut pas utiliser leurs dérives, on se perd complètement, quoi. Ils nous récupèrent à toutes les sauces. Donc autant que nous on les récupère aussi. Donc en fait, tout ce principe de développement local et donc de développement global, ça se fait par un jeu de je te tire, tu me tires, je te tire, on essaye d'avancer. Seulement le citoyen, très souvent, il est complètement à côté, quoi. Donc l'une des grosses difficultés, c'est que les seuls qui interviennent aujourd'hui auprès des citoyens, et je vais mettre des guillemets, ça reste l'éducation populaire. C'est-à-dire, qui peut toucher les quartiers, si ce n'est les maisons de quartier, les animateurs et autres. Et là, on a encore des difficultés. Les maisons de quartier ne sont pas des lieux vraiment de discussion. C'est pas toujours le cas. C'est des lieux d'activité, c'est des lieux où on fait des choses. Et l'éducation populaire est quand même sur un système du savoir tout au long de la vie, de l'apprentissage tout au long de la vie. Mais on revient sur la même chose. Apprendre quoi pour aller vers où? Donc on a tout un travail de sensibilisation à faire si on veut avancer avec le citoyen. Et là, ça devient très compliqué. Parce qu'on a besoin de moyens. On a besoin de fonds. Et les fonds, c'est les politiques qui nous les donnent. Donc en fait, on est sur un système qui se mord la queue. Donc il va falloir qu'on arrive, je pense, à trouver, nous, un système de fonds indépendamment du financement solidaire. Ça suffira pas pour tout le monde. Qui nous permettent d'avancer avec le citoyen pour faire bouger le politique, pour l'emmener où on veut. Il est censé nous représenter. Mais nous, là, on n'est pas assez nombreux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça?
Qui se lance sur comment on peut faire ça? Michel?
Tout à l'heure, dans la séance plénière, François Longerina s'est intervenu le thème normalement de son intervention, c'était du local au global, et moi je crois que c'est une des possibilités pour entrer dans ce rapport de force dont tu nous parles, même si tu n'as pas prononcé le mot de rapport de force, mais c'est exactement celui-là. C'est un rapport de force constructif et positif, hein, de la part des citoyens qui veulent entreprendre, et pas seulement sur le plan économique, hein, sur le plan social, sur le plan culturel, et qui sont effectivement dans un rapport de force avec les élus, parce que nous sommes dans un système qui est basé uniquement sur la démocratie représentative et pas sur une démocratie plus active. Alors il y a des embryons aujourd'hui en région Île-de-France, France, dans les banlieues, et peut-être je connais moins sur Paris, mais en tout cas tout ça c'est des embryons, parce que les politiques commencent à comprendre effectivement que le désengagement des citoyens au moment des élections peut leur coûter cher, hein, et que peut-être on a inventé autre chose pour construire un autre monde. Mais aussi, pour être plus pragmatique que ça, je pense que dans l'économie solidaire, dans le mouvement associatif, dans le mouvement coopératif, dans le mouvement mutuel, il y a quand même une sacrée tendance à faire un peu chacun pour soi, un peu chacun pour sa chapelle, un peu chacun pour son type de statut. On l'a vu dans les interventions qui ont précédé, notamment celle de mon ami de l'Union régionale des SCOP. Il n'y a pas aujourd'hui de modèle absolu et parfait qui serait plus solidaire que celui du voisin, et pourtant c'est un peu ça l'ambiance générale de ce secteur de l'économie sociale et aussi quelquefois de l'économie solidaire. Hélas. Donc je crois qu'on a à jouer collectif. Et on a à jouer collectif sur un certain nombre de valeurs essentielles et ce qui nous rapproche. Ensuite, on a à cultiver effectivement des différences, parce qu'on est différent, mais cette différence, elle fait la richesse. Hein. C'est ce qu'on dit quand on est à Porto Alegre, un autre monde est possible, ou d'autres mondes sont possibles, parce qu'à partir de nos différences et pas à partir de quelque chose qui serait unique. Et très concrètement, quand on voit l'expérience qui a été menée par l'association pour la promotion de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle APRES, qui a créé un outil absolument formidable qui s'appelait Mediasol et qui aujourd'hui est en train de crever, enfin a crevé littéralement, parce qu'il n'a pas été soutenu jusqu'au bout, évidemment, par les pouvoirs publics, mais il n'a pas été soutenu non plus par les acteurs de l'économie sociale et par les acteurs de l'économie solidaire. Pourquoi il n'a pas été soutenu? Parce que justement, il travaillait sur cette transversalité et au-delà des corporatismes. Donc je crois que notre boulot, si on veut sortir justement de ce rapport de force où on est toujours perdant, parce que entre une institution, entre un territoire et une structure de l'économie solidaire, on sait bien qui gagnera à la fin, hein, si on est dans des intérêts divergents, on sait bien que c'est pas le petit porteur de l'économie solidaire qui va s'en sortir, même s'il y a une petite poignée de résistants et de Gaulois là qui et le caractère de Gaulois n'a pas un caractère ethnique mais plutôt un caractère politique de résistance. On sait très bien que c'est toujours les mêmes qui vont gagner. Donc nous, on a à jouer collectif et on a à se doter d'un certain nombre de moyens et d'outils. Et tout à l'heure, avec il est parti, un autre camarade qui était là, on se disait ce qu'il nous faut, c'est de l'info, c'est une agence d'information, c'est créer nos propres médias, c'est créer des moyens, des réseaux pour qu'on puisse être efficace et faire bloc. Et ça, je crois que, hélas, culturellement, aujourd'hui, notre secteur ou nos secteurs ne sont pas encore prêts. Moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont nous pousser et qui sont en train sérieusement de nous pousser aux fesses. Et le camarade de Nanterre, il est en train, avec d'autres, ils sont certainement en train de nous pousser pour justement sortir de nos tranchées dans lesquelles on s'était quand même aménagé un petit plastique pour pas avoir froid aux fesses et puis une gourde avec de l'eau en pensant que comme ça on avait commencé à construire quelque chose d'intelligent. Non, on n'a pas construit quelque chose d'intelligent quand on est dans le repli et qu'on est dans les tranchées. Aujourd'hui, il faut un peu regarder autour et il y a des gens qui nous poussent à le faire. Et ça, merci.
Eh bien, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Ça marche?
Oui.
Bonjour, Jean-Marc Neuville. Moi, je suis un coopérateur d'une SCIC qui se trouve non pas à Paris, mais dans l'Aude. Qui s'appelle, ce qui est d'ailleurs la première SCIC de France, qui s'appelle la SCIC de Cadrome. Je rebondis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Michel, bien entendu, sur l'histoire d'un problème d'information et de communication, en tout cas un outil qui permettrait de centraliser tout ce qui touche l'économie sociale et solidaire, avec un accès Internet ou voire une revue, bien sûr. Mais pour rebondir avec Bruno, sur la résistance et sur les outils à utiliser. Samedi dernier, ici, il y avait une réunion, samedi matin, je crois d'ailleurs que la masque est arrivée, qui présentait la mutuelle Arts, Sciences, Sociales, Culture, qui est une mutuelle qui s'est créée, je crois, autour de Daniel Le Scornet, Gérard Paquet, qui s'occupe ici des métallos. Et par exemple, il y a eu une intervention d'un monsieur qui s'occupe de théâtre au Mali, mais aussi sur une municipalité qui s'appelle Bonneuil. Il expliquait que, par exemple, que pour pouvoir construire des petits territoires de contre-pouvoir dans le domaine culturel et dans le domaine de théâtre, il donnait l'exemple de la mutuelle de spectateurs qui permet vis-à-vis d'une municipalité qui peut faire un peu ce qu'elle veut sur le choix de programmation d'un théâtre, d'agir et non plus de dire on est une société d'abonnement, mais on est une mutuelle et donc sur la programmation, non seulement on vend du théâtre et du spectacle à tarif préférentiel à nos mutualistes, mais en plus ces gens-là interviennent dans le cadre de la programmation. Et bon, c'est un exemple concret, je veux dire, les outils existent, le réforme de la code de mutualité existe, les CIC elles existent, bon, il faut faire avancer le truc, mais son idée était intéressante, c'est de dire, on crée une mutuelle de spectateurs et on se rend compte qu'on n'a plus le même rapport. La municipalité, les responsables de la collectivité territoriale n'ont plus le même rapport. On peut opposer, comment dire, sur une programmation, on peut opposer un groupe mutualisé par rapport à un groupe de consommateurs. C'est complètement différent. Voilà, c'était juste un exemple, mais ils sont là, donc s'ils veulent parler.
Oui, ce que tu dis aussi, tu parles un peu aussi de l'implication. C'est-à-dire qu'effectivement, soit il y a des clients, des consommateurs, soit il y a des citoyens. Et c'est pas la même chose. Et donc, c'est pas que on pourrait se passer des financements publics, mais le financement public ne devient pas, le théâtre ne devient pas l'instrument de la, du financement public au service d'une réélection, pour faire court. Mais c'est bien, on est bien tous ensemble dans un projet commun qui est de faire ville pour le coup, ou de faire culture, ou etc. Et donc, à partir du moment où il y a une implication, qu'elle soit financière ou dans une implication de projet, ça, on change de posture, on quitte le consumérisme dans lequel on est habituellement, je dirais, canalisé, dans un couloir de contention, on va tous à Mammouth faire nos courses, et on va tous au théâtre au même jour, à la même heure, parce qu'on a tous écouté la même émission qui nous a dit que ce spectacle était formidable, etc., etc. Et voilà, et donc là, tu parles, à un moment, il y a quelque chose qui fait qu'on se mêle de nos affaires, et on se met ensemble au service du projet, quoi. Et donc, il y a des contre-projets, il y a des contre-pouvoirs, il y a du collectif. Et là, la ville, du coup, les élus peuvent jouer un rôle d'émergence de projet, et non plus cette tentative naturelle à l'instrumentalisation ça la freine, quoi, je dirais. Je pense qu'on vient nous chercher, c'est terrible, oui, c'est ça. Presque 14h30, alors ceux qui voulaient absolument parler, lèvent le doigt pour qu'on puisse faire une répartition. Il y a Pierre qui me l'avait redemandé, vous me l'aviez demandé, deux, ça fait trois. Absolument, en portant la chaise et puis tout. Roger.
Moi, je voulais juste mettre un petit bémol à cette histoire de participation sur les pratiques culturelles. Il faut pas nier l'intérêt de certains politiques et, a fortiori, les communistes. Par exemple, sur les assises pour la ville, dont Nanterre, Goberge, qui est tout sauf la vraie démocratie participative, hein, c'est complètement orienté, c'est manipulé, c'en est vertigineux. Au niveau de la programmation culturelle, ben c'est systématique et désespérant. Hein. C'est mettez-nous Lara, Fabian ou Johnny Hallyday, quoi. Donc là, il peut y avoir un problème, tu vois. Après, sur l'idée de... Moi, je suis vraiment sur cette idée de fédération des énergies, mais c'est vraiment un de mes chevaux de bataille les plus importants. Quoi. C'est vraiment un enjeu d'une actualité urgente. Et ce que tu as dit tout à l'heure sur les organes de communication, c'est aussi essentiel. Mais alors, on arrive au problème, comment on finance ça, quoi? Parce que ça veut dire impression, journaliste, enfin, écriture, et puis distribution, hein. Mais c'est vrai que voilà, société du spectacle oblige. Mais ça serait un vrai truc à creuser, quoi. On a vraiment besoin de ça. Et en plus, toujours autour de cette idée d'éducation populaire, on est tous à se goberger là, d'éducation populaire. Moi, des réunions telles que celle-ci, qui sont pas de haute volée, un télo, moi, mes voisins de la cité, des provinces françaises en face, ils n'entravent pas la moitié, quoi. Donc, comment arriver à pas être démago, mais parler... de communiquer, quoi, avec eux. C'est un peu prosaïque ce que je dis, mais moi c'est à ce à quoi je suis confronté quotidiennement, quoi. Ouais, et je crains pas individuellement et dans la rue quand personne me regarde d'être démago.
Pierre, je peux, oui, pas rentrer en discussion, on va être obligé, mais c'est important parce que ce qu'on dit est enregistré, donc on se donne encore un peu de matière dans notre réservoir commun d'atelier, c'est pas mal. Et puis après Pierre, on lève le camp et on va voir la plénière. Ah pardon Denis, j'avais pas vu.
Oui, simplement je me demande si ça serait pas intéressant de profiter dans le cadre du rapport de cet atelier de faire une proposition à Madame de la Gontrie, puisqu'elle a pour ambition
soutenir les propositions de l'atelier.
C'est ça, les maisons des associations dans chaque arrondissement, les rencontres dans les arrondissements, des forums d'économie sociale, et puis le forum social européen. Ce serait peut-être intéressant de lui proposer que, dans ce cadre-là, l'économie solidaire, la ville de Paris, dans son soutien à l'économie solidaire, puisse prendre en charge la venue de quelques, praticiens de l'économie solidaire des pays du Sud. Ça serait pour montrer que la logique de la solidarité, telle qu'elle est comprise à la ville de Paris, c'est pas... simplement une solidarité, fermée sur la ville, mais que c'est dans un concept beaucoup plus large. Et à l'occasion de ce forum social, de prendre cette initiative qui serait porteuse symboliquement de
est-ce qu'un membre de général, est-ce qu'un membre de l'atelier voit une objection? Alors ce sera dans la liste des ce sera dans le compte rendu, d'accord, on va le préparer ensemble. On était censé préparer le compte rendu à l'heure du repas, je ne sais pas comment on va faire. Denis, pour finir cette fois vraiment avant de descendre.
En fait, moi, j'aurais juste voulu savoir s'il y avait ici quelqu'un qui travaillait, je sais pas, à la mairie, au département, à la région, à la ville, quelqu'un qui travaille sur des projets, qui les voit passer, qui les ait dans les mains, qui les étudie, qui les analyse, qui les instruise, etc. C'était juste une question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a par hasard quelqu'un ici qui fait ça?
Au revoir, à tout à l'heure.